Donc, la parole vivante, le titre du message, malgré le plan de lecture qui restreint significativement le nombre de textes bibliques que je peux utiliser, j'ai toujours la difficulté quand même à choisir le passage biblique clé que je vais apporter. Donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais prendre le maximum de ceux qu'il y avait dans cette semaine. Et il y avait 3 chapitres sur Luc. Donc, j'y étais avec ça. Et il y a plein de beaux liens à faire dans ces 3 chapitres-là. Il y a plein de parallèles intéressants, etc. Donc, vraiment, le but aujourd'hui, c'est de vivre cette citation que A.W. Tozer a écrit dans son livre « À la recherche de Dieu ». Peut-être que vous avez déjà entendu. C'est vraiment une citation que j'aime beaucoup. Il dit ceci, « Avoir trouvé Dieu et le rechercher encore est le paradoxe de l'amour de l'âme que méprise celui qui se satisfait d'une religion facile, mais que justifie l'heureuse expérience des enfants au cœur brûlant pour le Père. » C'est long, je vais le répéter. Après avoir trouvé Dieu et le rechercher encore est le paradoxe de l'amour de l'âme que méprise celui qui se satisfait d'une religion facile, mais que justifie l'heureuse expérience des enfants au cœur brûlant pour le Père. Et que peu importe où vous soyez dans votre quête spirituelle, dans votre relation avec le Seigneur, que vous l'ayez trouvé depuis des années, ou bien que vous l'ayez pas encore trouvé, vous cherchiez, ou que vous soyez en recherche encore. J'espère vous encourager dans cette quête. J'espère vous encourager à avancer. Puis, donc c'est ça, tout simplement. Ce que je pense faire aujourd'hui, c'est faire un survol de l'Ancien Testament. On vient de le finir, donc on va voir à quoi ça a servi cet Ancien Testament-là. Pourquoi est-ce que, au lieu de prendre tout ce temps-là, Dieu aurait pas pu envoyer tout de suite son Fils? Pourquoi pas? On aurait économisé du temps. Right? Donc, pourquoi, à quoi servit l'Ancien Testament? On va voir ça. Et donc, en même temps, quelques mots sur le contexte, peut-être, qui a séparé les deux testaments. Et puis, par la suite, on va regarder certains passages dans Luc 1 à 3. Donc, c'est ma ligne du temps que j'ai inventée cette semaine. Donc, ça a commencé avec quoi? Avec Adam et Ève et la création. Un monde parfait. Certainement, Dieu n'a pas créé le monde tel qu'il est, avec toutes les injustices, la violence, avec toutes les causes de déception qu'il peut y avoir. On a vu avec Adam et Ève qu'au début, tout était parfait, tout était bon. Mais assez rapidement, Adam et Ève veulent marquer leur indépendance par rapport à Dieu et font des choix qui lui sont contraires. On le sait, le péché fait son entrée dans le monde. Mais une des choses, puis ça, c'est une des 3 grandes lignes que le Testament vient nous offrir, c'est que dès Genèse 3:15, Dieu va faire une promesse qui va s'accumuler avec d'autres promesses. Et puis ça va créer ce qu'on appelle des attentes messianiques. Tout au long de l'Ancien Testament, il y a de plus en plus de promesses qui viennent à la suite de l'autre, et puis on attend de plus en plus une personne spéciale. Il y a quelqu'un qui s'en vient, et cette œuvre, on pourrait dire, de destruction que le péché a commencé, cette personne-là va venir renverser ça. Et Genèse 3:15, j'aimerais qu'on lise ensemble, parce que c'est vraiment intéressant de voir ce fil conducteur-là au travers des attentes messianiques, qu'on peut aussi appeler des fois les prophéties. Donc, je vais le lire parce qu'il y en a quand même plusieurs. Là, je vais pas attendre que vous ayez trouvé le passage. Donc, Genèse 3:15 dit ceci. Après que Adam et Ève aient péché, Dieu donne une conséquence à chaque personne qui a été impliquée dans le processus, commençant par Adam, ensuite Ève, ensuite le serpent. Et en Genèse 3:15, Dieu s'adresse au serpent à ce moment-là, qui représente Satan, le diable. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, je mettrai inimitié au futur, premièrement. Deuxièmement, inimitié, c'est quoi? C'est comme une haine, c'est une rivalité, c'est une guerre qui finit toujours par la mort d'un des deux parties. C'est tellement une grande haine qu'il y a en deux parties que ça va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit détruit. Et puis, encore, ça parle de quelle forme ça va prendre. Ça va être au travers de la descendance de la femme que Dieu va donner un coup mortel au serpent, qui est le diable. Ce coup mortel-là, c'est le coup à la tête. Il t'écrasera la tête. Un coup à la tête, c'est considéré comme un coup mortel. Mais en même temps, ça dit que Satan va lui écraser le talon. Donc, Satan aussi va faire du tort. Satan va faire mal, mais beaucoup moindrement que Dieu va lui avoir fait, dans le fond. Donc, première prophétie, première promesse que Dieu a fait concernant un Messie. Et à partir de là, il y en a plein d'autres qui s'accumulent. Et à chaque fois qu'on arrivait à un personnage important de l'Ancien Testament, les attentes étaient telles que, est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est lui que Dieu a promis? On va maintenant aller voir le deuxième passage où est-ce que Dieu a fait une promesse. Et c'est dans cet épisode où est-ce que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac sur la montagne, quelque chose d'impensable, quelque chose qui est tout à fait extraordinaire et que Dieu ne refera jamais. C'était un coup unique pour justement nous donner un symbole important qui allait avoir une résonance une fois que Jésus allait venir et mourir lui-même à la croix. Donc, dans Genèse chapitre 22, verset 14, Abraham a dit ceci. Après, dans le fond, avoir presque tué son fils, c'est là qu'un ange de Dieu est intervenu, puis l'a empêché. Et par la suite, il a trouvé un bélier, il a trouvé un animal pour faire le sacrifice à la place de son fils. Il a dit ceci. Abraham donna à cet endroit le nom de Adonai-Jiré, qui veut dire « Dieu pourvoira ». C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Au futur encore, au futur. Et Jésus est mort où? Sur la croix, sur le mont Golgotha, sur une montagne aussi. Et c'était le Fils unique de Dieu, et ça c'était un symbole préfigurant qui allait dans le fond, c'est encore une promesse ajoutée, une promesse qui commence à être de plus en plus définie. Comme Abraham a dû abandonner son fils, Dieu le Père devra abandonner son fils pour le salut. Et donc, on avance, on continue. On va aller maintenant dans... Je pensais faire quatre exemples avec vous. Vraiment voir que c'est un fil conducteur qui est intéressant, qui rend significatif Jésus par la suite. Parce que si Jésus est arrivé juste comme ça, sans tout ce processus, ça aurait été beaucoup moins significatif, puis on n'aurait pas compris toute la valeur. Jacob, qui est aussi appelé Israël, dans Genèse 49, verset 10, va encore faire une prophétie, et ça concerne une personne qui va venir, encore remarquer. Le bâton de commandement ne s'écartera pas de Juda, ni l'insigne du législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, ça parle que, dans le fond, le Messie va venir par la tribu de Juda. Donc, dernier exemple, permettez-moi. Par la suite, on arrive à Jésus, mais celle-là est vraiment intéressante. Moïse, maintenant. Moïse, dans Deutéronome 18-15, à un moment donné, on aurait pu se dire, c'est peut-être Moïse, le Messie de Dieu, c'est peut-être Moïse que, dans le fond, l'Ancien Testament parlait, parce que Moïse a fait de grandes choses. Il a libéré le peuple de l'oppression des Égyptiens, etc. Mais Moïse lui-même a dit ceci dans Deutéronome 18, verset 15. Il dit, on va commencer avec le verset 17. « L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. » Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc, Moïse est en train de dire, il y a une autre personne qui vient, qui va être comme moi, et Dieu va parler de façon spéciale au travers de lui. Les mots importants dans ce passage-là, c'est « comme moi ». Il sera un prophète comme toi, dans le fond. Pourquoi c'est important? Parce que regardez le Deutéronome, comment il finit les deux derniers versets, il dit ceci. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Il est incomparable pour tous les signes et les prodiges que l'Éternel l'envoya faire au pays d'Égypte, comme le Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour les actes très redoutable que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc, Moïse est incomparable. Pourquoi? Pour deux choses. Premièrement, il n'y a pas aucun autre prophète qui voyait Dieu face à face comme lui. Il y avait une relation personnelle avec Dieu, comme la Bible dit que c'était comme son ami. Il se parlait face à face. C'est extraordinaire. Jamais aucun prophète, à part Moïse, a eu une telle relation personnelle avec Dieu. Et deuxième chose, il est incomparable pour tous les prodiges qu'il a fait. La puissance que Dieu a manifestée par cet homme-là, c'est incroyable. Les 10 plaies d'Égypte. Et Dieu a fait de grandes choses qui est inégalée. Donc, oui, il y a eu plein d'autres prophètes par la suite après Moïse, mais jamais un prophète qui a eu ces deux choses-là. Donc, pour ceux qui ça intéresse, David aussi, psaume 110, vous irez lire Malachie 3.1, que ça, c'était plus en lien avec la venue d'une personne qui allait précéder la venue du Seigneur, et il parlait de Jean-Baptiste. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour créer un momentum d'attente messianique grandissant, qu'on s'attende à quelqu'un, qu'on s'attende que quelque chose s'en vient de grand de la part de Dieu, et que une fois que ça va se produire, il y a des référents, qu'on puisse dire « Ah, ok, on sait que ça vient de Dieu parce qu'il l'avait prédit d'avance et parce que, dans le fond, il nous a fait ces promesses-là, on peut voir que c'est de Dieu. » Mais l'Ancien Testament, ça sert pas juste aux attentes messianiques, ça sert aussi, vite fait, là, je vais prendre moins de temps pour ces deux points-là, mais l'Ancien Testament aussi servit à faire une révélation progressive de Dieu à l'humanité et d'apporter l'humanité à grandir progressivement dans les voies de Dieu. Genèse chapitre 4 parle de Lémec qui après la chute, c'est Lémec qui dit Caïn s'est vengé. Caïn a tué un homme, mais dans le fond, moi pour ma meurtrissure, je vais tuer même un enfant. Tu sais, Caïn a été vengé 7 fois, moi je vais être vengé 77 fois. Alors qu'on voit l'humanité aller de plus en plus dans les ténèbres, on voit que Dieu, avec Moïse, arrive et commence à éduquer l'être humain. Comme un père éduquerait son enfant, il commencerait à lui inculquer certaines notions. Et une des notions que Dieu a inculquées, c'était œil pour œil, dent pour dent. La justice, pour commencer, si tu me plaques, si tu me donnes une gifle sur la joue, je t'en donne une. Si tu me creves un œil, je te creve un œil. Donc, la justice visait pas la permission de la vengeance, mais plutôt la restriction de la vengeance. On commence à éteindre la violence, on commence à éteindre le mal, mais on le fait progressivement. Et là, donc, Dieu a commencé son processus de révélation et d'éducation, je pourrais dire, de l'humanité. Nous, parfois, on va relire la Bible, puis certains passages, c'est comme, ah, c'est incroyable que ça soit dans la Bible, mais c'est tout simplement que Dieu n'avait pas encore fait son processus d'éducation. Troisième point, en lien avec l'Ancien Testament, c'est tout simplement l'enseignement de notions de base, comme par exemple la justice de Dieu. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est un principe tellement important que Dieu veut nous inculquer, qu'il va avoir attendu 2000 ans que les Juifs fassent des sacrifices jour après jour dans le temple pour leurs péchés. Donc, c'est vraiment quelque chose, des notions de base comme ça. Et c'est seulement après tout ça que Jésus peut venir et que ça résonne avec nous. Donc, juste avant de lire le passage, je vais prier pour que le Seigneur soit présent. Père Céleste, je veux juste te remercier pour ta parole, puis pour tout toute cette action que tu fais, Seigneur, depuis le début de l'humanité, mais en même temps aussi depuis le début de notre vie, Seigneur. Et au même titre que ta parole annonce même la fin des temps, je pense qu'on a cette promesse que tu vas être là avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et ma prière, Seigneur, c'est que par ton esprit, tu viennes, puis tu parles à nos cœurs, et que tu rendes vivante ta parole, Seigneur, que ça puisse résonner avec notre situation, notre réalité, et vraiment que ton nom soit glorifié et que chacun d'entre nous ici, on puisse faire un pas de plus vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Fait que, sur ce, j'aimerais qu'on lise ensemble Luc 2, versets 8 à 20. C'est l'épisode où est-ce que les bergers vont voir Jésus dans la crèche. Fait qu'aujourd'hui, c'est Noël. Je sais que on n'est pas habitué d'avoir des textes bibliques sur Noël à d'autres moments de l'année, mais Il y a vraiment des notions clés là-dedans qui sont intéressantes. Fait que, est-ce que quelqu'un voudrait lire? Je parle beaucoup, fait que ce serait bon d'entendre quelqu'un d'autre. Marie-André, voudrais-tu lire pour nous?
Encore?
Ouais. Ben, moi, quelqu'un d'autre veut lire? Ah, mais t'es bonne, on aime ça. Wow, OK. Donc, des bergers font leur travail, sont en train de faire paître leur troupeau. Des anges apparaissent et font une grande annonce qu'il est né un sauveur. Et il y a une invitation dans l'annonce des anges. Allez voir, allez à Bethléem et allez voir, vous allez trouver un enfant mailloté dans une crèche. Et c'est lui le sauveur, le Christ et le Seigneur même. Donc, première des choses, c'est que je vais vous dire ce matin, c'est regardez, mais regardez bien. Et Dieu veut nous faire voir des choses. Dans notre vie, Dieu a des moments rendez-vous. Il y a des rendez-vous qu'il prépare d'avance. Il y a des points de rencontre, je pourrais dire, que Dieu, où est-ce qu'il vient nous parler, soit par l'entremise de d'autres personnes, soit par un livre, soit par la beauté d'un paysage. Il y a ces moments où est-ce que Dieu veut nous faire voir des choses qui vont nous approcher de lui. Et ce moment où est-ce que les anges sont venus vers les bergers fut l'un de ces moments. Pour eux, c'était extraordinaire, c'était clair, c'était supernaturel. Mais pour la plupart d'entre nous, ce l'est pas. C'est plus subtil. Une des choses que je veux vraiment mettre l'emphase dessus, c'est qui les bergers au premier siècle? Les bergers, bon, d'après un auteur d'un commentaire, dit ceci, ce récit mettrait au défi les valeurs de plusieurs personnes religieuses qui méprisaient les bergers au premier siècle. Le travail de berger les empêchait de participer aux activités religieuses de leur communauté. Et parce que, bon, la religion, on sait, était très forte au premier siècle, parce qu'ils ne pouvaient pas participer aux activités religieuses, les bergers étaient vraiment méprisés. C'était vraiment comme le genre de travail qui avait pas beaucoup de valeur sociale associée à ça. Et c'est intéressant que c'est à des bergers que Dieu envoya des anges pour faire cette invitation. Et quand on regarde ça, on commence à voir qu'il y a un thème dans Luc où est-ce que Dieu se révèle, ou Dieu se fait voir, si on veut, surtout aux personnes qui sont humbles. Surtout aux personnes qui ne sont pas orgueilleuses. Puis, on va approfondir ça ensemble. Je vais lire Luc 3:3-6. Ça, c'est tout de suite après Luc 2 qu'on vient de lire. Donc, c'est Jean-Baptiste qui commence à prêcher et à préparer, la venue du Seigneur. Donc, et Jean-Baptiste alla dans toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits et les chemins raboteux seront nivelés, et toute chair verra le salut de Dieu. Regardez la fin, toute chair verra le salut de Dieu. Ça, c'est le but de Dieu. C'est son cœur, c'est de se révéler à chacun d'entre nous et à chaque tribu, à chaque nation. Et il n'y a pas une personne qui, dans la souveraineté de Dieu, ne pourra pas avoir cette possibilité de connaître Dieu. Mais regardez ce qui précède cette affirmation qu'on va tous voir le salut de Dieu. Ça parle de quoi? Verset 5. Les vallées seront, ce qui est bas, les vallées seront comblées, vont être élevées. Les montagnes, ce qui est haut, vont être abaissées. Donc, et ceux qui, c'est ça, qui vont tout croche vont. Mais le point important, c'est vraiment la question de l'humilité versus orgueil ici. C'est, avant de voir Dieu, il y a un travail que le Seigneur a voulu faire par l'entremise de Jean-Baptiste, qui est quoi? C'est de travailler sur, dans le fond, l'humilité versus orgueil, de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Ça voulait dire, dans le fond, pour les gens de l'époque, c'était d'être prêt à se repentir. Et être prêt à se repentir, ça implique nécessairement quoi? De l'humilité. On ne peut pas voir l'œuvre du Seigneur Jésus, ça c'est sûr, si on est trop orgueilleux pour admettre nos fautes, admettre nos torts, Je crois vraiment que c'est quand on est conscient de notre besoin de Dieu que Dieu va se révéler à nous, va nous faire voir une prochaine étape. Et c'est vraiment présent dans tout l'évangile de Luc. Par exemple, on va lire ensemble Luc 9, versets 46 et 48, où est-ce que Jésus prend comme exemple les enfants. Là, ça va être mon dernier exemple d'humilité. Là, à partir de ça, je veux qu'on réfléchisse ensemble à qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais Luc 9, 46 à 48. Donc, je ne l'ai pas écrit au tableau ce passage-là, mais je vais le lire. Or, une discussion survint entre eux pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Celui qui connaissait Jésus, qui connaissait la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Donc, comment être grand, c'est en étant petit. Fait que c'est comme la montagne qui est abaissée et la vallée qui est élevée. Et donc, Jésus prend l'exemple d'un enfant. Et en quoi est-ce que l'enfant est à prendre en exemple dans ce point-ci? C'est au niveau de son humilité. Les enfants sont humbles parce que les enfants comprennent qu'ils sont totalement dépendants, en réalité, de leurs parents. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire sans le support de leurs parents. Se vêtir, se nourrir, s'éduquer, se protéger. Il n'y a rien qu'ils peuvent faire sans être dépendants de leurs parents. Et nous, de même, en réalité, on vit au jour le jour, mais on présuppose plein de choses qui nous viennent de Dieu, dont la vie, le souffle, le cœur qui bat, etc. Mais de reconnaître cette dépendance-là, comme les enfants reconnaissent leur dépendance à l'égard de leurs parents, c'est clé pour aller plus loin dans notre relation avec Dieu. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire à nous? J'ai une petite illustration. Des fois, j'aime beaucoup lire des livres et des fois, je suis dans une librairie et juste à cause du titre, je vais acheter le livre. Surtout s'il coûte pas cher, là. Comme lui, un petit livre tout petit. Et le titre m'a vraiment accroché. C'était « L'art d'avoir toujours raison ». Si vous me connaissez, vous savez que j'aime les débats en plus. J'aime les débats et j'étais tellement curieux, j'ai commencé à lire, puis c'était drôle, donc je l'ai acheté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, l'auteur, il va dire que ça se peut dans des débats ou dans des discussions, quand on s'obstine avec d'autres personnes, qu'on ait objectivement raison, c'est nous qui avons raison, mais que l'autre ne veuille pas l'admettre. Right? Ça arrive souvent, ça. Ça se peut même qu'au cours du débat, l'autre réussisse à te faire croire que tu as tort, alors que tu as vraiment raison. Tu sais, puis le point ici, c'est intéressant. Un moment donné, il va dire pourquoi ça, c'est pourquoi est-ce que dans le fond, alors que des fois on a objectivement raison, l'autre ne veut pas croire, ne veut pas accepter. Pourquoi? Il dit ceci. Il dit d'où cela vient-il? Là, il dit de la médiocrité. Là, il va fort, mais de la médiocrité naturelle de l'espèce humaine. Si ce n'était pas le cas. Si nous étions foncièrement honnêtes, nous ne chercherions dans tout débat qu'à faire surgir la vérité sans nous soucier de savoir si elle est conforme à l'opinion que nous en avions d'abord défendue ou à celle de l'adversaire. Ce qui n'aurait pas d'importance ou serait du moins tout à fait secondaire. Mais c'est désormais l'essentiel. La vanité innée, et lui il veut dire la vanité comme étant l'orgueil, là, dans le fond que des êtres humains, l'orgueil inné particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés intellectuelles, ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse ni que celle de l'adversaire soit juste. Donc, je trouve ça intéressant qu'il, c'est pas un chrétien, c'est un philosophe qui est aucunement, il est pas chrétien, mais donc il réfléchit sur les tactiques, peu importe qu'elle soit honnête ou pas, pour toujours avoir raison. Mais il commence en parlant de la nature humaine. Et je trouve c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'aime pas admettre que nous avons tort et on n'aime pas admettre que on doit changer dans notre comportement. Et c'est intéressant que, de voir que Dieu a envoyé avant Jésus Jean-Baptiste pour justement, Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance, donc changer de comportement, réformer vos voies, plus après ça, il donnait des exemples concrets. Si t'es un soldat, n'exige pas le double de qu'est-ce que t'es en droit de percevoir comme solde. Donc, d'autres, ils disaient, si t'as deux manteaux, donne-en un, les péagés, dans le fond, etc. Donc, Dieu vraiment a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le cœur, parce que Jésus allait aller encore plus loin par rapport à la question de nos péchés. Parce que c'est ça son œuvre, right? Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, donc on pourra jamais voir vraiment Jésus et la portée, la signification de ce qu'il a fait, si on n'a pas l'humilité de reconnaître qu'on a besoin de ça. Et quand je pense à mon propre cheminement, avant d'être chrétien, je suis venu chrétien à 16 ans, et avant, il y avait une partie de moi qui était très arrogante, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui voyait mes propres besoins puis qui admettait que j'avais besoin de Dieu. Dans la partie arrogante, ma sœur s'avait convertie un an avant moi, puis elle me parlait de la Bible. Des fois, tu sais, il y a des portions dans la Bible où est-ce que c'est dur à croire, tu sais, comme Jonas ou les personnes qui vivaient longtemps, etc. Et moi, je riais de ce genre de choses-là avant d'être chrétien. Mais en même temps, j'avais un style de vie qui, parfois, je trouvais que je faisais moi-même pitié. Je me souviens, un jour, j'étais chez mon père et j'avais trop consommé d'alcool et j'étais malade. Et mon père, qui dormait toujours dans le salon de l'autre côté, donc il était là, mais il dormait. Et je me disais, si mon père m'entend, là, il doit trouver que je suis pathétique. Il doit trouver que je fais vraiment pitié. Sérieusement, je fais pitié, un style de vie comme ça, là, tu sais. Donc, d'un côté, j'étais arrogant, mais de l'autre côté, j'étais conscient que la façon de gérer ma propre vie ne faisait pas de sens, c'est que j'avais besoin d'aide pour mieux la vivre. Et donc le Seigneur m'a préparé un rendez-vous divin, un rendez-vous qui m'a profondément humilié dans on pourrait dire dans ma perspective des choses, dans le sens que Dieu m'a montré que vraiment ce que je croyais sur la vie était fondamentalement erroné, et que dans le fond, il me fait goûter à sa puissance de telle sorte que par la suite, je revenais à la Bible, puis je me suis dit, qui suis-je moi pour dire ce que Dieu peut faire ou pas, tu sais, comme Jonas ou comme les personnes qui vivaient. Et Dieu m'a profondément humilié dans ma raison et tout, et il est venu dans le fond éliminer cette partie de moi, ou du moins il est encore là, mais il a fait un travail quand même important à ce moment-là, où est-ce que j'étais arrogant, et puis il a utilisé cette partie de moi qui reconnaissait mon besoin de lui, et c'était la porte d'entrée pour lui dans ma vie. Donc c'est quoi la porte d'entrée pour Dieu dans votre vie? C'est en quoi vous avez besoin de Dieu? Et c'est vraiment pas juste à la conversion, c'est quelque chose qui, à chaque fois, chaque étape de notre vie, on peut ressentir un nouveau besoin par rapport à Dieu, et c'est une porte d'entrée de Dieu dans notre vie, parce que c'est un aspect de notre vie où est-ce qu'on est vulnérable, où est-ce qu'on est humble, si l'on veut. Et peut-être qu'on peut ouvrir ça à vous. En quoi est-ce que quelle forme peut prendre l'humilité dans nos vies qui permet une certaine rencontre avec Dieu? Ouais. C'est ça, le Seigneur doit, tant qu'on est autosuffisant, tu sais, le Seigneur nous laisse aller, mais il peut même permettre certains obstacles dans notre vie pour amener qu'on réalise que on n'a pas toutes les ressources nécessaires. C'est vraiment bon. D'autres personnes, comment que l'humilité, comment peut-être le Seigneur vous a rencontré au travers d'un moment, ou est-ce que peut-être c'est vraiment bon. Puis ultimement, le moment le plus vulnérable qu'on va tous faire face, c'est la mort. Tu as parlé de guérison. T'sais, ça peut être un gros défi que d'avoir un problème de santé, mais ultimement, le moment où est-ce que on est le plus vulnérable et qu'on va admettre qu'on a tôt ou tard besoin de Dieu, c'est ça, c'est à la mort. Fait que, mais bon, oui, c'est vraiment bon. Il y a des choses dans la vie qui dépendent de nous, mais il y en a qui dépendent pas de nous. Si on perd un emploi parce que la manufacture a fermé, ça dépend pas de nous. Si après avoir été mené des CV, on n'a toujours pas d'entrevue, ça dépend pas de nous. On a fait ce qui dépendait de nous. Puis là, fait que c'est clair qu'on a des limites, puis de les reconnaître. Et quand on a notre besoin qui, à cause de nos limites, il est toujours pas comblé, mais on crie à Dieu. C'est vraiment un moment clé pour le rencontrer d'une façon toute spéciale et de voir son action, de voir sa présence dans notre vie, son intervention. OK, bon. OK. Oh, mais gloire à Dieu. Peut-être une dernière personne? Amen. Ben, merci, c'est vraiment... C'est beau de voir comment ça prend forme dans nos vies concrètement. Ouais. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais au cégep, puis il y a un frère qui me raccompagnait. Je l'ai peut-être déjà compté, là, pardonnez-moi la répétition si c'est le cas. Mais donc, un frère me ramenait en voiture chez moi, et puis donc j'étais au cégep, puis à un moment donné, le sujet des finances est venu sur les conversations, puis plus à un moment donné, il voit que, bon, dans mon non-verbal, ça va plus ou moins. Puis là, il me dit, tu sais, comment ça va sur le plan financier? Puis là, je dis, bon, je suis serré, puis là, il voit, puis là, à un moment donné, il dit, ben, t'as-tu besoin, tu sais, combien que t'as dans ton compte pour payer tes paiements, etc. Fait que là, finalement, j'ai partagé mon besoin. Et puis il a arrêté au guichet, il m'a donné 200$ pour me soutenir. Ça m'a marqué. J'avais vraiment la difficulté à accepter, mais de ça a été vraiment le Seigneur m'a touché profondément à travers de ça. Comment la famille, on est là en Dieu pour se soutenir les uns les autres. On a vu notre sœur dans un moment de vulnérabilité. Elle aussi, elle nous a écrit pour nous remercier. Mais de reconnaître notre besoin, d'être capable de l'exprimer devant Dieu, mais aussi devant les frères et sœurs, ça demande l'humilité. Puis on va voir Dieu agir dans notre vie quand on va reconnaître notre besoin, puis on va être capable de l'admettre, de le confesser. Donc c'est vraiment important ça. D'autres éléments dans le texte. Ok, ici j'ai une petite citation. Dans la foi, il y a assez de lumière pour éclairer ceux qui veulent croire et assez d'ombre pour aveugler ceux qui ne veulent pas croire. Donc, Blaise Pascal. Et je trouve que c'est intéressant parce que, tu sais, on a parlé tantôt des prophéties. Jésus a fait plein de miracles. Comme il se passe plein de choses dans notre vie où est-ce que Dieu attire nos regards. Mais c'est jamais au point de nous forcer, hein. Puis Dieu donne l'espace de liberté nécessaire pour qu'on fasse un choix qui est vraiment le nôtre. Mais je pense vraiment que c'est l'attitude du cœur qui va faire en sorte qu'on va opter pour Dieu ou pas. Et c'est pas nécessairement les preuves bien ou les raisons objectives, bien que c'est super. Puis moi, vous savez, vous connaissez, je valorise beaucoup ça. Mais au plus profond, c'est le cœur qui va déterminer si on accepte Dieu ou si on le rejette. Et vraiment, l'humilité est importante. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est vraiment important. Donc, c'est ça. Ça, c'était un des points que j'avais, mais aussi deux autres points dans le vite fait, plus rapidement, parce que le temps avance, c'est déjà écart. Dans notre passage, après avoir vu les bergers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez pu vos doigts dans votre passage, hein? Donc, Luc 2, verset 16. Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après avoir vu, dans le fond, ce que les anges avaient prédit, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Donc, ils racontent à tout le monde ce que les anges leur ont dit au berger par rapport à ce petit gars-là qui est dans la crèche. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Ça, c'est intéressant hein, parce que le texte vient juste de dire que Marie-Joseph est là avec le petit bébé Jésus. Mais là, au verset 10, ça dit « tous ceux qui les entendirent ». C'est comme si ça suppose qu'il y a d'autres personnes, mais que ça ne dit pas dans le texte qui serait là. Mais on a dans Matthieu, par exemple, on sait que les mages aussi ont été voir Jésus. Donc, c'est comme s'il y a un petit clin d'œil par rapport à un autre texte qui concorde en passant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu. Quand on voit quelque chose, quand on voit Dieu intervenir dans notre vie, une vraie louange va venir naturellement dans notre cœur. Et c'est là que vraiment, comme on va glorifier Dieu d'un cœur sincère. Et je vous encourage, moi, quand on est dans les temps de louange comme on a eu, comme on va avoir, pensez à comment vous avez vu Dieu agir dans votre vie. Et vraiment, comme se remémorer ça, faire en sorte qu'on peut vraiment vivre des temps intenses de communion avec lui. Mais glorifier Dieu, c'est pas juste le louer. C'est aussi admettre, dans le fond, qui il est et ce qu'il fait dans la vie. Je pense à des pharisiens, rapidement, là, l'évangile de Jean. Il disait « rend gloire à Dieu », puis pour eux, « rend gloire à Dieu », ça voulait dire « confesse la vérité ». T'sais, confesser la vérité, c'est rendre gloire à Dieu. Et peut-être juste rapidement, là, dans ce sens-là, j'ai un passage dans Romains qui parle que quand on reconnaît la création comme étant l'ouvrage de Dieu, c'est lui rendre gloire, c'est le glorifier. Tout simplement ça, juste vous êtes devant un coucher de soleil, vous êtes devant une belle neige qui tombe, puis dire « Wow, Seigneur, c'est beau ça », ou ça, c'est comme reconnaître que ça vient de Dieu, c'est lui rendre, c'est le glorifier. Rapidement, Romains 1, verset 18 à 21 dit ceci: « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient, comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vaines pensées. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Voyez-vous le jeu avec on est sage, comme on peut tout expliquer la création, mais en même temps, tu n'as pas l'humilité de reconnaître que ça vient d'un créateur. Donc, l'attitude de cœur t'empêche de voir Dieu. Et Jésus, dans l'Évangile, va dire genre, je parle en parabole, de sorte qu'en entendant, ils n'entendent pas, et qu'en voyant, ils ne voient pas. T'sais? Fait qu'il y a tout un jeu intéressant que, dans le fond, on peut chercher Dieu, mais je vous donnerai pas une méthode pour chercher Dieu, comme lisez votre Bible, ce qui est très bien, comme servez auprès des pauvres, ce qui est très bien, tout ça, mais le fondamental, c'est d'avoir le cœur à la bonne place pour le voir. Et à partir de là, on va pouvoir le voir dans plusieurs aspects de notre vie. Donc, glorifier Dieu. Et puis, peut-être le dernier point que j'avais, c'était qu'est-ce qu'ils ont fait après avoir glorifié Dieu? En fait, ils le font avant, si je ne me trompe pas. Donc, juste avant, ils racontèrent, verset 17, « Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. » Une fois qu'on va avoir vu l'action de Dieu dans notre vie, cette joie-là va nous avoir porté à le glorifier, à le louer, à l'adorer, puis on va vouloir la partager, ça va être naturel. Dès qu'on trouve des bonnes nouvelles dans notre quotidien, on veut le partager. Il y a un gros rabais au Costco, 50% sur les TV Toshiba, allez chercher ça. T'sais. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir une grosse file au Costco, et tu te demandes pourquoi, puis la nouvelle s'est répandue parce que c'est une bonne nouvelle. C'est la nature de quelque chose de bon d'être partagé. Et donc, c'est l'effet vraiment naturel. Et sur ça, je vais juste finir, OK, en lisant le prologue de Luc. Je vais juste le lire, mais regardez bien, de témoin oculaire à raconter. Il y a vraiment comme un jeu où est-ce que Luc va parler des apôtres, dans le fond, qui ont été témoins oculaires, ils ont vu des choses. Ça les a poussés à aller raconter ces choses-là jusqu'au bout de la terre parce que c'était tellement beau, ça a tellement apporté du bienfait dans leur vie qu'ils veulent le partager pour que tout le monde puisse y goûter aussi. Et c'est exactement la même chose que Luc, l'évangéliste, fait à l'égard de Théophile. Fait que je vais juste le lire. « Puisque plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis ceux qui, dès le commencement, ont été témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a semblé bon, à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, beaucoup de ces actes supernaturels où est-ce qu'on a vu Dieu agir sont maintenant par écrit et sont accessibles pour nous pour les plonger nos regards en profondeur et voir comment Dieu, comment il agit et puis comment il va agir dans nos vies. Amen. Je vais juste terminer en prière. Père Céleste, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Merci de ce que tu as envoyé. Jésus, non seulement Jésus, mais aussi l'Esprit Saint. Puis, Seigneur, tu agis dans chacune de nos vies, que ce soit par, Seigneur, en nous donnant un emploi, en nous guérissant, simplement, Seigneur, en nous guidant dans une décision, en pourvoyant à nos besoins, Seigneur. Tu agis tellement souvent. Aide-nous de le voir, Seigneur. Aide-nous de voir que tu es un Dieu présent qui agit dans ce monde. Aide-nous vraiment à se réjouir de ça, à te glorifier de tout notre cœur et de dans notre joie, de partager ça, Seigneur Dieu, avec ceux qui ont aussi besoin, Seigneur, de toi et qui sont prêts à le reconnaître, Seigneur. Donc, je te demande de bénir chaque personne ce matin et puis sois avec nous durant cette semaine, puis fais mijoter dans nos cœurs ta parole. Amen, Jésus.
Amen.